Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Cette semaine, on a battu un record, plusieurs records même. Le S&P 500 est au-dessus des 7400, le Dow retape les 50 000, sixième semaine consécutive de hausse pour le Nasdaq. Champagne, caviar, on a gagné visiblement. Bon, par contre, juste un petit détail, le baril de Brent est à 109 $. L'inflation américaine est repartie à 3,8%. Le PPI est à son plus haut depuis 4 ans et le rendement du 30 ans américain a atteint les 5,12, son plus haut depuis 2007, l'année où, je vous rappelle simplement, on a déclenché la plus grosse crise financière depuis 1929. Et accessoirement, Trump est rentré de Pékin avec une commande de Boeing moins importante que prévu, le sourire, et c'est à peu près tout, j'ai envie de dire, à poil. Mais sinon, tout va très bien, les marchés montent plus ou moins, on a l'impression qu'ils savent quelque chose que nous on ne sait pas, mais en tout cas ça va pas trop mal, même si vendredi c'était un petit peu tendu. Cette semaine on va regarder ensemble pourquoi Wall Street s'est shooté à la méthode Coué pendant 4 jours, avant de se réveiller vendredi avec une bonne gueule de bois. Au menu on parle de l'inflation qui rebondit, du pétrole qui flambe, le sommet qui a rien rapporté finalement, taux obligataires qui font la révolution, et un ETF mémoire qui a fait plus 100% en 6 semaines, parce que pourquoi pas. Allez, on embarque tout de suite, bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillat et nous sommes le samedi 16 mai 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On commence donc par le morceau qui a vraiment cassé l'ambiance cette semaine, même si personne n'a voulu le voir tout de suite, parce que c'est plus marrant d'acheter du Micron à 450 $ que de lire un rapport du BLS. Mais mardi, le CPI américain pour le mois d'avril est sorti à 3,8% sur un an, au plus haut depuis mai 2023. Le core CPI à 2,8, le rythme mensuel le plus rapide depuis janvier 2025. Bien sûr, l'énergie a contribué pour la plupart à la hausse, laissant sur 12 mois plus 28,4%. Et là, je vous vois venir, oui, mais c'est l'effet Iran et c'est temporaire, c'est exceptionnel. Bien sûr, c'est toujours temporaire, c'est toujours exceptionnel, même si ça devient gentiment structurellement temporaire. Sauf que le Détroit, lui, il est toujours fermé. Mais le vrai choc est arrivé aussi mercredi parce que le PPI, le Producer Price Index, les prix à la production, c'est-à-dire ce que les producteurs facturent avant que ça arrive chez vous, c'est grosso modo ce que vous allez payer dans 2 à 3 mois. Eh bien, c'est plus 1,4% sur le mois, plus 6% sur l'année, le plus haut depuis décembre 2022. Le consensus attendait plus 0,5, on a fait x3. Les prix de l'essence en sortie de raffinerie, plus 15,6, le jet fuel, plus 12,6, les services pèsent pour 60% du panier, ils ont bondi aussi. C'est tout simplement la plus grosse hausse depuis mars 2022. Mars 2022, je vous rappelle, c'est le moment où Powell s'est réveillé et il a commencé à monter les taux en mode panique. Résultat des courses, les traders qui, en début d'année, priçaient au moins une baisse de taux pour 2026, prient désormais à 39% pour une probabilité de hausse de 25 points de base d'ici décembre. Il y a une semaine, c'était 14%. La semaine d'avant, on parlait de baisse. Donc, en plus ou moins 10 jours, on est passé de la Fed va baisser à la Fed va monter. Bienvenue dans la volatilité des anticipations des analystes. Et le pire dans tout ça, c'est vendredi. C'était le dernier jour de Powell. À partir de lundi, c'est Kevin Warsh, le Warsh qui doit faire la Fed de Trump, qui doit baisser les taux pour faire plaisir au patron. Sauf que là, il hérite d'une stagflation naissante, avec une inflation qui repart, un dollar qui prend 5 jours de hausse d'affilée, et un marché obligataire qui lui dit clairement « Mon gars, si tu baisses les taux, nous on monte les taux longs à ta place. Bon courage, Kevin !» Et tout ça, évidemment, c'est lié au pétrole, hein, parce que tant que le détroit d'Hormuz reste fermé, ou semi-fermé, ou aléatoirement fermé, ou plus ou moins ouvert, choisissez peu importe la phrase que vous voulez, l'inflation va continuer à mettre la pression sur tout le monde. Le bilan de la semaine, c'est le WTI qui prend quasiment 10%, le Brent 8%, on est au-dessus de 109 $ le Brent ce matin, et l'EIA, l'Agence Internationale de l'Énergie, qui a sorti un rapport en mode « j'en peux plus de répéter la même chose », mais les flux à travers Hormuz ont chuté de 4 millions de barils par jour en mars-avril, et même si le conflit se résout le mois prochain, ce que personne ne croit sérieusement, le marché restera matériellement sous-approvisionné jusqu'en octobre. Donc, concrètement, 6 mois minimum d'inflation énergétique dans le pipeline. Je vous laisse imaginer le PPI du mois prochain et je ne vous parle même pas du CPI.
Cerise sur le gâteau, l'Arabie Saoudite a informé l'OPEP que sa production était tombée à son plus bas depuis 1990. 1990, hein, c'est l'année de l'invasion du Koweït. Hein, c'est-à-dire l'ambiance, le swing producteur du monde produit moins qu'il ne produisait pendant la première guerre du Golfe et tout le monde s'en fout. Et puis alors pendant ce temps-là, Trump a déclaré vendredi depuis Air Force One que les États-Unis n'ont absolument pas besoin que Hormuz soit rouvert, ou du moins pas autant que la Chine. Traduction, démerdez-vous, on adore vraiment ce genre de diplomatie. Le marché, lui, il a aimé mezzo-mezzo. Alors il a aimé mezzo-mezzo parce que l'événement géopolitique de la semaine, c'était le sommet Trump-Xi à Pékin. Première visite d'État américaine en Chine depuis 2017, blablabla, on connaît l'histoire. Trump qui est allé avec une délégation de CEO, ça aussi on connaît l'histoire. Façon, je vais signer des deals comme à la grande époque. La promesse, c'est on rentre avec des contrats massifs, c'était la promesse. Réalité, on est rentré avec une commande de Boeing de 200 avions à la place des 500 qu'on espérait, et c'est à peu près tout. Pas d'accord sur les puces Nvidia, pourtant Jensen Wang avait fait le voyage à la dernière minute. Apparemment, ils ont quand même réussi à prendre un selfie. Pas d'accord substantiel sur le commerce, pas d'engagement chinois pour faire pression sur l'Iran. Trump a même dit, je cite, qu'il n'avait pas demandé à Xi de faire pression sur Téhéran parce qu'il n'a pas besoin de faveur. Mais il pense que Xi va le faire quand même, tout seul. Parce que voilà, méthode Coué appliquée à la diplomatie là encore. Xi de son côté a obtenu exactement ce qu'il voulait. Trump qui dit que Taïwan, bah on aimerait bien que ça reste comme ça. Sous-entendu, on bouge pas, mission accomplie pour Pékin. Sans rien lâcher. Mais pendant que les deux leaders se congratulaient au Great Hall of the People sur leur visite historique, la réaction du marché vendredi était claire. Boeing moins quasiment 4%, Nvidia moins 4,4%, AMD moins 5,7%, Intel moins 6,2%. Les semi-conducteurs ont pris une toute petite claque derrière les oreilles parce que les marchés savent compter les contrats. Et là, ils n'en ont pas compté beaucoup. Bon, on va parler un petit peu d'obligataires. C'est ici que ça devient sérieux, je vous le cache pas. Hein. C'est ici que les indices actions se sont réveillés vendredi. Le rendement du 10 ans américain, 4,60 sur le 10 ans, plus haut depuis un an, plus 14 points de base sur la séance de vendredi, et le 2 ans est au-dessus des 4%. Mais par contre, le 30 ans, accrochez-vous, 5,13 plus ou moins, le plus haut depuis juillet 2007. Ah putain, vous avez vu la résistance sur le graphique là? Si ça passe, c'est sky is the limit. Mercredi, le Trésor américain a vendu pour 25 milliards de dollars de 30 ans à un rendement de 5%. C'est la première fois que ça arrive depuis 2007. La demande pour la dette longue américaine s'effondre parce que personne ne veut prêter à 30 ans à un pays qui imprime de l'inflation à toute allure et dont le déficit ressemble plus à un trou noir qu'à autre chose. Petite remarque pour les amateurs d'histoire, 5% sur le 30 ans, c'est généralement le niveau au moment où les dirigeants des grandes banques prennent le téléphone, ils appellent le président pour lui faire part de leurs inquiétudes sur les marchés. Donc à partir de maintenant, si le téléphone sonne à la Maison Blanche, c'est peut-être Jamie Dimon et pas forcément Melania qui veut savoir quand est-ce qu'on tourne un nouveau documentaire sur elle-même. Le message du marché obligataire est donc limpide. Monsieur Warsh, si vous baissez les taux courts, nous on va s'occuper des taux longs et ça va faire très très mal. C'est ce qu'on appelle un bond vigilante. On en parlait depuis 30 ans, bah il est revenu, et puis il vit, il respire, et il fait un peu peur quand même. Hein. C'est pas un des gars qui bosse avec les Avengers. Et c'est exactement ce qui a déclenché la chute de vendredi. Si on devait résumer juste la journée de vendredi, on dirait ça a le goût de 2022, ça a la couleur de 2022, ça a l'odeur de 2022, mais c'est 2026. Ah bah oui, l'inflation qui repart, les taux longs qui montent, la tech qui est chère et qui risque de prendre cher, on a déjà vu le film, la seule chose qu'on espère, c'est qu'on n'aura pas tout à fait la même fin. Et puis pendant que tout ça se passait, eh bien, il fallait quand même qu'on s'amuse un peu, et l'amusement de la semaine, comme depuis 2 mois, ça s'appelle la mémoire, pas la mienne, hein, celle des serveurs, et on va parler 2 secondes du Round Deal Memory ETF. C'est un ETF qui vient de sortir, le ticker c'est DIRAM, voilà, au moins ils se sont pas foulés sur le nom, lancé le 2 avril. Hein. Le 2 avril, il vient de franchir les 6,5 milliards de dollars d'assets en 36 jours. C'est l'ETF le plus rapide de l'histoire à atteindre ce niveau. Plus rapide que l'IBIT de BlackRock sur le Bitcoin qui avait mis 43 jours. Le fonds est à plus 107% depuis son lancement en 6 semaines. Sa composition, Micron, SK Hynix et Samsung, 75% du fonds. Ça s'appelle du all-in, hein, pas loin quand même. La justification est simple, hein, l'IA Memory Supercycle, les hyperscalers achètent de la HBM, de la NAND, à des prix surtout qu'on n'avait jamais vu. Les carnets de commandes sont pleins jusqu'en 2027, Micron a fait plus 57% de chiffre d'affaires, une année sur l'autre, SanDisk plus 645 sur son segment data center, le truc fonctionne, vraiment, aujourd'hui. Mais, Mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous savez, le truc de Paris, la Polymarket, attribue déjà 26% de probabilité à un éclatement de la bulle IA d'ici la fin de l'année. Un quart des investisseurs, un investisseur sur quatre, dit ça va péter avant Noël. Et la mémoire, il faut s'en souvenir, c'est historiquement le segment le plus cyclique des semi-conducteurs. Quand ça monte, ça décolle, et quand ça redescend, ça vole à peu près aussi bien qu'une brique ou un frigidaire. Donc, on profite, hein. Mais on s'attache quand même avec son harnais 5 points, on ne sait jamais. Et puis, petit passage rapide sur les earnings tech de la semaine, parce que c'est ce qui a porté les indices jusqu'à mercredi, avant que tout craque en fin de semaine. Cisco, plus 20% en pré-market jeudi matin, parce qu'ils ont fait des chiffres canons. Le vieux Cisco, celui qu'on avait enterré en 2001, l'outlook est super bon, restructuration, expensive silicone portfolio. Le CFO, Mark Patterson, explique qu'ils vont fabriquer plus de leurs propres puces de réseau. Bref, ils ont retrouvé le mojo, ils ont viré 4000 personnes. Bienvenue dans les années 2000, version intelligence artificielle. Applied Material, résultat record, IPS record, revenu record. Le PDG Gary Dickerson annonce que son business d'équipement semi va croître de plus 30% en 2026, contre 20% annoncé 3 mois plus tôt, juste 3 mois plus tôt. Donc la révision à la hausse à mi-année, si vous cherchez une preuve que la demande IA est en accélération, et ben la voilà. Et tout ça, c'était juste de l'amuse-bouche, parce que le plat principal, c'est mercredi prochain, le 20 mai. Nvidia, Q1 fiscal, le tout, le truc, le rapport qui va valider ou défoncer la thèse de la semaine, du mois ou du trimestre. Si Nvidia rate ne serait-ce qu'un cheveu sur la guidance, on est parti pour une correction sérieuse. Si Nvidia explose tout, j'ai envie de dire comme d'habitude, le marché peut encore monter sur les vapeurs d'essence. Mais soyons honnêtes, à $225 l'action et avec la valorisation actuelle, le risque rendement n'est plus du tout le même qu'il y a 2 ans. Bien sûr, le morning bull aura lieu dans la nuit ce jour-là. On en reparlera la semaine prochaine. On a passé donc la semaine à monter, 6 semaines de hausse pour le Nasdaq jusqu'à jeudi soir, 7 hausses hebdomadaires consécutives pour le S&P 500, la plus longue série depuis 2023. Tout le monde était plutôt content, tout le monde achetait AI Memory Supercycle, Taco Trade, Buy the Deep, Stock Can Only Go Up. Bref, on était au sommet et complètement euphorique. Et puis vendredi, Trump est rentré de Pékin à poil, le pétrole a repris 4%, le 30 ans est passé à 5,12%, le S&P 500 a lâché 1,2%, le Nasdaq 1,5% et on s'est réveillé avec la gueule de bois. Ça sent un peu 2022, l'inflation qui résiste, les taux longs qui montent tout seuls, la tech qui prenait cher vendredi, le dollar qui se renforce et un marché qui découvre l'air un peu surpris que les obligations existent encore et qu'elles ont leur mot à dire. On assiste à une prise de conscience, le marché s'est emballé beaucoup trop vite, il ne prêtait pas assez attention aux signaux du marché obligataire et aux données économiques trop occupées par ce momentum sur l'IA. Parce que pendant 5 jours, on s'est excité à la hausse, on s'est dit que la mémoire allait sauver le monde, que Trump allait sortir un accord magique à Pékin, que la Fed allait baisser quand même, que l'inflation c'était transitoire, encore une fois, que le pétrole allait redescendre et que Nvidia, mercredi prochain, validerait tout ça. Et surtout, surtout, que le Détroit allait rouvrir. Mais bon, à la fin, on s'aperçoit qu'on monte avec les vapeurs d'essence, et les vapeurs d'essence, ça dure le temps que ça dure. Quand le réservoir est vide, il est vide. Le marché commence à fatiguer, il commence à se demander si toute cette histoire d'IA va vraiment justifier des multiples qu'on n'avait jamais vus, si l'inflation va vraiment redescendre, si Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, va vraiment pouvoir baisser les taux dans un environnement comme ça, et si le Détroit d'Hormuz va rouvrir dans 2 semaines, dans 2 mois, ou jamais. Le problème aujourd'hui, c'est que plus on repousse les vraies décisions, plus le marché, il risque de devenir quand même un tout petit peu nerveux. Alors, la semaine prochaine, on va regarder Nvidia mercredi, on va regarder Kevin Warsh prendre ses marques, on va regarder aussi si le 30 ans franchit 5,20, auquel cas, accrochez-vous, le téléphone va sonner à la Maison Blanche, et on se rappellera que les marchés, quand ils montent 6 semaines de suite sur fond de guerre, d'inflation et de taux longs qui explosent, c'est généralement le moment de se recroqueviller sur le sol en position fœtale. On passe maintenant aux performances de la semaine. Alors, si on regarde les performances de la semaine, ben vous voyez, quand on voit que vous avez le SMI qui gagne 0,9%, le S&P 500 qui est péniblement en hausse de 0,13% et le pétrole qui prend quasiment plus de 10%, 10,48% sur la semaine, ça veut dire qu'on est très très mal et qu'on est un petit peu fatigué en cette fin de semaine. Donc attention à lundi, attention au tweet du dimanche, parce que ça pourrait donner lieu à une semaine un peu compliquée. Vous voyez quand même que sur certains assets, le CAC 40 perd 2%, le Nikkei est en baisse de 2%. Rappelons quand même que le 10 ans japonais est très très haut et fait très très peur. L'or a perdu 4% quasiment et l'argent quasiment plus de 5%. Donc on sent quand même qu'on est un tout petit peu nerveux et que les gens vendent 2-3 trucs histoire de se protéger ou de prendre des profits. Du côté de la Suisse, alors on va y revenir, mais Zurich a cartonné au niveau des résultats. Autrement, bah, le reste, c'est plutôt, ça montait principalement dans les grands noms, et puis le reste était un petit peu chahuté. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, quand on regarde les performances de la semaine, les gens vont racheter un peu de la Suisse. Donc quand on rachète un peu de la Suisse et qu'on vend les techs, c'est qu'on est un tout petit peu tendu et un tout petit peu stressé. On va rechercher psychologiquement un peu de défensive et un peu de franc suisse. Ce qui nous amène au graphique de la semaine. Alors, vous voyez le SMI, on a cet immense range qu'on vit, dans lequel on vit depuis un bon moment, avec un bas à 12 300 et un haut à 14 000. Et là, pour l'instant, depuis un bon moment, on se traîne entre 13 000 et 13 400. Il se passe pas grand chose. Si on zoome un peu sur la semaine, vous voyez que c'est la loi de l'emmerdement maximum sur le SMI pour l'instant. C'est pas l'endroit le plus sexy. Alors, pour l'instant, comme je vous le disais, c'est un peu défensif. Mais vous voyez qu'on est dans un range hyper serré, qui passe, on va dire, allez, on va arranger un peu comme ça, on va dire entre, allez, un bas sur les 12 940 et puis on revendrait autour des 13 412. Mais même encore, pour l'instant, on vous dit, on a fait des très petites journées. La plus grosse journée, c'est la journée du 12 mai, où on a quand même swingé, on a été très haut et très bas, mais on finit pas grand-chose à la fin. Donc, grosso modo, un marché de range et on ne sait pas trop où aller, mais peut-être que les tensions qui sont arrivées vendredi vont générer un peu de réassurance et de gens qui vont venir se planquer sur la Suisse. Le S&P 500, alors je vous passe le reversal de fin de semaine, vous voyez, donc on est quand même dans une tendance évidemment toujours haussière, allez, on peut aller chercher comme ça, grosso modo on a une tendance haussière qui est dessinée, là on a marqué le pas, on a effacé deux journées de hausse en l'espace d'une séance vendredi soir. Attention quand même, si on va pas casser les 7350 sur le S&P 500, sinon ça, vous voyez que ça fait un peu de place pour aller chercher beaucoup plus bas sur le S&P 500. Donc attention, parce que effectivement, on l'a dit et redit, on va le redire encore, quand vous avez des marchés qui sont montés quasiment de manière verticale depuis quelques temps, quand ce genre de verticalité arrive, la correction, elle se fait pas progressivement. Le Nasdaq, pareil, toujours dans ce canal haussier, vous voyez qu'il a moins baissé que le reste, on s'est sauvé encore les fesses grâce à la tech, hein, c'est vraiment la tech qui tient tout en ce moment, mais là aussi, attention à une cassure à la baisse. Le semi-conducteur index, vous voyez que ça commence à hésiter, hein. Là, on voit quand même que depuis 4-5 jours, c'est un peu compliqué, et on a vraiment de plus en plus de peine à trouver une direction, donc là aussi, c'est des signaux de doute sur le SOX. Le DAX, on est toujours dans un range, là aussi, on s'emmerde profondément. Vous voyez qu'on a un bas du range autour des 23, 24 000, on va dire, mais on n'arrive pas à sortir. Là aussi, on hésite. Tout ça, le résumé de la guerre. Si vous regardez un peu ce qui se passe sur le DAX depuis le cessez-le-feu, on hésite, on ne sait pas. Et on a vraiment besoin qu'il se passe quelque chose au niveau de l'accord de paix, de la rouverture du Détroit d'Hormuz. Autrement, ça risque d'être très très long et un été très très ennuyant. Le CAC 40, c'est la copie conforme du DAX. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là. Et puis l'or, vous voyez que c'est assez marrant parce qu'on sent la tension, mais les gens, ils dégagent quand même les assets défensifs. Ce marché a perdu une certaine logique pour l'instant. Mais on a surtout l'impression que les gens aujourd'hui, quand il faut se dégager, ils dégagent et puis ils se mettent cash parce qu'ils savent plus où aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que ça donne. Vous voyez que là, l'or, si on va chercher un peu des trucs, on est en train de casser un espèce de triangle. Ce serait bien qu'on ne fasse pas un retour sur les 4300 parce qu'après, ça risque d'être un peu compliqué pour trouver la niaque, pour remonter. Le pétrole, c'est un peu la vedette de la semaine. On s'est dit, ouais, ça va bien se passer avec Xi en début de semaine. Et puis, bah voilà, on est remonté derrière. Donc voilà, ça va pas dans la direction on veut. On termine quand même relativement haut sur le Brent et sur le WTI. C'est le WTI. Et on voit quand même qu'on a bien tenu cette moyenne mobile ici. Et sans nouvelles du côté d'Hormuz, j'ai envie de dire qu'on pourrait facilement retourner vers les 110. Les experts en pétrole disent même que si jamais il n'y a pas d'accord qui se décide dans les 2-3 semaines, là c'est carrément la porte ouverte à toutes les fenêtres, et puis on parle déjà de 120 sur le baril, et 120 par là, et puis après éventuellement 150, là c'est beaucoup plus haut. Mais grosso modo, attention, ce sera une des clés avec les taux longs ces prochains temps. D'ailleurs, à propos des taux, regardez le 10 ans. Alors, c'est difficile de regarder le graphique d'un rendement, si vous voulez, mais regardez-moi ça, l'accélération en fin de semaine, c'est spectaculaire. On est venu rechercher les niveaux qu'on avait atteints en mai 2025, l'année passée. Vous voyez qu'on est redevenu à ces mêmes niveaux-là. Alors là, attention, si aussi on va chercher, on casse ces niveaux-là, on peut aller chercher carrément les 4,80 et on va se poser énormément de questions. Mais celui qui fait le plus peur, on l'a vu tout à l'heure, c'est le 30 ans. Là aussi, donc un peu à l'image du 10 ans, si on vient casser les 5,12 ces prochains jours et qu'on va casser les 5,20, ça va être dantesque au niveau de l'obligataire. Donc forcément, il y aura des grosses conséquences sur le marché des actions ces prochains jours. Donc, en un mot, prudence. On passe maintenant au chapitre vedette de la semaine. Alors, je vous préviens, c'est pas la semaine la plus fofolle qu'on ait vécue en Suisse, mais on notera quand même que Zurich a publié ses chiffres du trimestre. Zurich Assurance continue donc de faire ce que Zurich Assurance fait depuis des années, gagner de l'argent pendant que le reste du monde regarde les missiles passer à la télé. Les primes explosent de 17% dans le non-vie, la croissance est meilleure que prévu, et même sans les effets de change, ça tourne encore à plus 8%. Bref. Pendant que certains assurent des trottinettes électriques en faillite, Zurich imprime du cash tranquillement. Le Moyen-Orient, pas vraiment un problème. Les catastrophes naturelles, quelques tempêtes, 2-3 incendies, mais rien qui empêche la machine helvétique de tourner. Résultat, le groupe pense pouvoir atteindre, voire dépasser ses objectifs 2027 avec un rendement des fonds propres au-dessus de 23%. Oui, 23% de rendement des fonds propres. À ce niveau-là, c'est plus une assurance, c'est une licence bancaire avec des parapluies. Et puis, il y a Beazley, le rachat britannique qui doit transformer Zurich en machine de guerre de l'assurance spécialisée, cyberattaque, infrastructure, énergie renouvelable, tout ce qui coûte une fortune quand ça commence à péter. Le marché a adoré, le titre a pris 4%, les analystes étaient surpris, les actionnaires aussi, surtout ceux qui avaient vendu trop tôt. En résumé, il faut jamais vendre la Zurich et compter sur le dividende. La Zurich Assurance, le chart, voilà. Donc vous voyez que c'est pas spectaculaire comme chart, hein. C'est pas non plus un truc de mémoire, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on remonte, on reteste de nouveau ce canal descendant. Si on arrive à casser en direction des 580, ça sera plutôt encourageant. Vous voyez qu'on est en train de construire gentiment un petit triangle ascendant, enfin un triangle pour l'instant. Donc la sortie sera assez brutale dans un sens ou dans l'autre. Moi, je suis systématiquement plutôt acheteur sur faiblesse sur la Zurich. Donc, vous voyez qu'on a des bas au-dessous de 540. Je suis pas sûr qu'on allait rechercher. Mais en tous les cas, pour l'instant, ça se porte bien. Si on casse cette résistance au-dessus des 570, je pense que ça ouvre la porte à nouveau pour retourner chercher les 600 francs suisses. Sonova publiera ses chiffres lundi. Alors chez Sonova, le problème du moment, c'est pas tant la technologie. Les appareils auditifs fonctionnent bien. Le problème, c'est que les clients n'ont plus forcément envie d'acheter tout de suite. Entre inflation, guerre, tarifs douaniers et consommateurs américains déprimés, même mieux entendre devient une dépense qu'on verra plus tard. Du coup, quand on entend tout ce qu'il y a à la télé, des fois, c'est mieux de pas entendre. En effet, donc le marché commence à stresser sur la croissance du secteur. Sonova devrait publier des chiffres corrects, mais sans faire rêver. Les volumes ralentissent et les investisseurs veulent surtout savoir si les seniors américains coupent dans les dépenses santé non urgentes. Traduction, papy attendra encore un peu avant de s'acheter des oreilles connectées. Le nouveau CEO Eric Bernard fait aussi le ménage, exit Sennheiser et les casques audio grand public. Sonova revient à son vrai métier, les appareils auditifs, une décision qui est plutôt bien vue pour le moment. Mais en bourse, ça souffre quand même. Le titre perd plus de 15% depuis janvier dans un marché obsédé par l'IA qui promet de sauver le monde. Vendre des appareils auditifs, tout d'un coup, ça paraît beaucoup, beaucoup moins sexy. Quoi qu'il en soit, réponse lundi matin. Vous voyez, le chart, dans le genre pas sexy du tout, c'est le prénom. Hein. On a une tendance baissière qui est juste imprimée dedans depuis un bon moment, depuis janvier 2025. On était à 322, on est à 179. Il y a du boulot. Et ce serait bien que les résultats soient pas décevants, parce que sinon, on va aller certainement retester les plus bas en direction des 168. Donc, méfiance lundi. S'il y a une bonne surprise, on pourra reparler peut-être de consolidation à la baisse et d'envisager un changement de tendance à un certain moment, mais comme on l'a dit, c'est pas l'euphorie. ABB continue de faire du ABB, acheter des petites boîtes industrielles obscures que personne ne connaît et transformer ça en machine à cash 3 ans plus tard. Cette fois, ils mettent la main sur un fabricant italien de transformateurs moyenne tension. Bon, c'est pas le truc le plus sexy à raconter au dîner de ce soir, mais c'est exactement le genre de business qui fait tourner les data centers, les usines et bientôt toutes les infrastructures IA de la planète. Pendant ce temps, la guerre en Iran ne semble pas encore trop perturber le groupe. Selon le CEO Morten Weirod, le vrai danger serait surtout un problème de chaîne d'approvisionnement si le conflit s'éternise. Traduction, tant que les cargos circulent et que personne ne bloque le détroit d'Hormuz, avec un porte-avions en feu, ça va encore. Côté droits de douane américain, ABB reste plutôt tranquille. Une grande partie de ce qu'ils vendent aux USA est déjà distribué et fabriqué sur place. Et ça, en 2026, c'est presque devenu un super pouvoir industriel. Et enfin, le CEO a calmé les fantasmes du marché. Non, ABB ne va pas claquer 40 milliards pour acheter Legrand. Le patron préfère des acquisitions digestes. En gros, avaler un bon steak industriel suisse-italien plutôt que d'essayer de manger un mammouth français entier et sans sauce. Bon, le chart, il n'y a rien à dire. Hein. C'est lié à l'intelligence artificielle. Verticalité, verticalité, verticalité. Mais attention, si la semaine prochaine, il y a des tensions sur le secteur tech, ABB risque fortement d'être pris comme cible en Confédération helvétique. Sur le marché élargi, AMS Osram a suivi le mouvement des semi-conducteurs. Le spécialiste austro-allemand de la photonique a cédé ses activités de capteur d'image au Californien Indy Semiconductor pour 40 millions d'euros. DKSH a décroché un mandat auprès du producteur indien de composants pour cosmétiques Novafen, couvrant les marchés malaisiens, singapouriens et thaïlandais. La société immobilière PSP Swiss Property a affiché fin mars un taux de vacance plus élevé qu'escompté. Software One s'est envolé la semaine dernière. La consolidation de Crayon a dopé les résultats du groupe Nidwaldien sur les 3 premiers mois de l'année. Adecco s'est fait démonter après avoir pourtant enregistré une légère hausse de ses revenus sur les 3 premiers mois de l'année, de 2% en glissement annuel à 5,7 milliards d'euros. Un analyste a souligné que dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques, le chiffre d'affaires dans le secteur des emplois emploi permanent devrait probablement rester difficile, voire on recule, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la marge brute et bam! Sunrise a sombré plus profondément dans le rouge du premier trimestre 2026. L'opérateur télécom a cependant augmenté sa rentabilité. Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont confirmées. Bref, on a passé 7 jours à monter sur les vapeurs d'essence et vendredi, le marché s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien dans le réservoir. Donc, la grande question de la semaine reste quand même: tout crash or not to crash? Personne n'a la réponse, bien sûr. Pas Wall Street, pas la Fed et certainement pas Trump et moi non plus. Mais la semaine qui arrive va commencer à donner des indices un peu plus sérieux. 3 choses à surveiller en tout cas, seulement 3. Numéro 1, lundi matin, Kevin Warsh prend donc officiellement les commandes de la Fed. Premier jour de la fête de Trump et le marché va lui faire passer un examen d'entrée plutôt brutal. Soit il calme l'inflation, soit il calme Trump, mais il ne pourra pas faire les deux. Bon courage Kevin. Numéro 2, mercredi soir 20 mai, après la clôture, Nvidia, le rapport du siècle, comme chaque trimestre. Q1 fiscal, consensus à 78 milliards de chiffre d'affaires, guidance Q2 attendu à 86 milliards. Si Jensen Huang livre un beat and raise comme d'habitude, le marché peut encore se shooter une semaine de plus. S'il rate ne serait-ce qu'un cheveu sur la guidance, on est parti pour une correction sérieuse sur toute la tech. Le risk-reward à $225 n'est plus tout à fait le même. Et puis numéro 3, bien sûr, le détroit d'Hormuz et le Trenton américain. Si Hormuz reste fermé et que le Trenton franchit le 5-20, vous fermez votre laptop, vous éteignez Bloomberg et vous partez faire du sport à l'extérieur. Croyez-moi. Et à côté de ça, il y aura aussi les chiffres de Home Depot mardi, Walmart et Target mercredi, Main Street contre Wall Street, on va voir comment se comportent les consommateurs américains. Voilà, en gros, to crash or not to crash. Réponse mercredi soir avec Nvidia. D'ici là, méfiez-vous des vapeurs d'essence. C'est jamais trop bon de respirer de l'essence, surtout à 2,40 € le litre. Et pour le reste, on s'abonne, on active la cloche, on like. C'est toujours bon pour l'algo et pour mon ego. On commente et on partage. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi pour un nouveau Morning Bull Live et le dernier tweet de Trump en date. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.